À travers la voix de la chanteuse Tita, c'est l'âme d'une Gabonaise des forêts qui se dessine, où tradition et culture vibrent, bercée par les rythmes, les chants et les mélodies. Ici, la musique n'est pas seulement un art, elle est l'âme même du Gabon.
Je m'appelle Tita Nzebi, je suis chanteuse. Et aujourd'hui, je vous emmène au Gabon, mon pays que j'aime tant, et j'espère que le voyage vous plaira. Le Gabon, c'est un pays de forêt, pas la petite forêt, la très grande forêt équatoriale. Moi, je suis née sous les arbres, sous les grands arbres. Dans les pays, dans les paysages montagneux comme chez moi, on fait pas la montagne comme les Alpes ici. Hein, quand vous vous réveillez à 4-5 heures du matin, vous êtes dans un brouillard que vous pouvez vraiment couper au couteau. Si une personne arrive en face de vous à 10 mètres, vous ne voyez pas la personne. Et vers 7-8 heures, le brouillard commence à disparaître et à venir le soleil. Ça, je parle juste de l'endroit où je suis née, Mbigou, et tous les villages qui sont comme ça dans ce genre de paysage, parce que nous avons aussi des plaines, nous avons aussi des paysages de mer, et c'est un pays donc de forêt, c'est l'un des poumons du monde. On parle beaucoup d'oxygène actuellement. Nous avons une très, très forte concentration. Et nous avons l'une des plus grandes concentrations d'éléphants au monde. Il y a beaucoup d'éléphants. Vous pouvez voyager, faire la route et rencontrer. Moi, j'ai rencontré un jour deux familles d'éléphants, juste en passant comme ça en voiture. Et les éléphants passent juste à côté de vous. Nous avons une faune très, très riche. Une faune très, très riche. Ce serait vraiment, ça nécessiterait plus qu'une émission pour vous parler de la faune et de la flore gabonaise. C'est tellement, tellement, tellement riche. Nous avons une plante qui ne pousse qu'au Gabon. Une plante, je pense qu'on appelle ça une plante endogène, qui est le liboga. Et l'iboga ne pousse qu'au Gabon, et c'est une plante qui est utilisée dans un rite qui fait office aujourd'hui d'un peu de religion nationale qu'on appelle Obiti. C'est une plante que les gens consomment pour faire des initiations. Ça vous permet, selon les initiés, de rentrer à l'intérieur de vous et de faire un voyage astral. Et au-delà de cette utilisation rituelle que nous avons au Gabon, le monde a découvert que l'utilisation de l'iboga peut aider à soigner de la toxicomanie. Donc, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde entier qui vont actuellement au Gabon pour essayer de travailler avec cette plante, cette plante iboga. Donc, ça, c'est pour une spécificité gabonaise qui peut être utile au monde. En termes de culture, le Gabon a produit les masques qui ont inspiré des peintres français qui aujourd'hui se vendent très, très cher dans les salons de vente à Drouet, etc. Il y a donc les masques Pounou. Les amateurs d'art en ont certainement entendu parler. Ça a été l'un des masques les plus chers au monde. Ça vient du Gabon. Actuellement, on parle beaucoup du masque Nguil. Et les amateurs d'art ont certainement entendu parler du tableau de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Ce tableau a été inspiré par des masques du Gabon, cette fois des masques Kota. Ça, c'est juste pour vous parler de la richesse culturelle du Gabon qui rayonne dans le monde entier depuis des siècles déjà. Et moi, j'apporte donc un peu de cette richesse culturelle parce que moi, je chante en langue zébi et des chants typiquement du Gabon. Et là encore, sur ce plan-là de la musique, nous sommes un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. Nous parlons 50 langues. Il y a donc une cinquantaine d'ethnies au Gabon. Et chaque ethnie a une richesse culturelle qui lui est propre. Et moi, j'ai voulu sauvegarder un peu de la culture zébi parce que de toutes les façons, on ne chante que ce qu'on est. Donc moi, je ne peux vous apporter que la musique Nzebi parce que je suis Nzebi. Mais si vous allez au Gabon, vous pouvez vous amuser à faire une géographie du Gabon à travers toutes les chansons que vous allez entendre parce que chaque ethnie a quelque chose de très, très différent. Alors, vu de l'extérieur, peut-être que vous n'allez pas pouvoir sentir la subtilité parce que tout le monde appelle ça de la musique africaine. Mais en fait, moi qui suis du pays, moi, je peux vous dire que ça, c'est pas de chez moi, ça, c'est pas de chez moi, ça, c'est pas de chez moi. Et vous parlez, on peut partir comme ça pendant toute une journée avec ça, c'est pas la musique de chez moi, ça, c'est pas la musique de chez moi et vous expliquer chaque les différences qu'il y a entre les différentes chansons que vous attendez. Et même au niveau de nos voix, nous ne chantons pas de la même façon selon la langue que nous parlons. Alors, qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons des feuilles de manioc. Tous les Gabonais mangent ça. Et au-delà même, Au Congo, tout le monde mange les feuilles de manioc chez les Bantous. Chez d'autres peuples qui sont voisins à nous, c'est plus la banane, c'est plus les taros, parce que nous avons beaucoup de racines comme ça que nous mangeons. Et nous mangeons de la viande, de brousse, qu'on appelle ici le gibier. Mais on mange plus beaucoup de légumes. Hein. On mange vraiment. Si y a des gens qui ne mangent que végétariens, si vous allez à Bigou, vous n'allez jamais mourir de faim. Parce que les végétaux, on les mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, la nourriture gabonaise, elle est très, 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 très bonne. Enfin, pour moi qui suis gabonaise, je suis désolée. Je pense que chaque enfant dira que la nourriture de chez lui est la meilleure. Donc, je suis comme tous les enfants du monde. Je suis une fille de la forêt, une fille du village. Je ne suis pas née en zone urbaine. Moi, j'ai grandi dans un village. Et là, vraiment, la communauté est très, très importante. Et j'explique toujours cette chose chez nous. La parentalité est mixte. On est père et mère, peu importe notre genre. Moi, je suis la mère des enfants de mes sœurs et je suis le père des enfants de mes frères. C'est ça la structure, la parentalité chez nous, elle est comme ça. Et elle dépasse le cadre familial parce que nous avons aussi des clans. Donc, moi aussi, je suis la mère de toutes les femmes, de toutes mes sœurs de mon clan. Qu'on soit de la même famille, ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, il y a un proverbe chez nous qui dit que le clan n'a pas de frontières. Donc, si un jour, moi, je viens ici et on me dit qu'il y a une femme de mon clan qui vient du Pays basque, eh bien, c'est ma sœur. Elle est peut-être basque. Moi, je suis de Migou, mais on est sœurs de par nos clans. Le clan chez nous n'a pas de frontières. Ça dépasse le territoire. Le territoire n'a rien à voir. C'est votre naissance, c'est votre ancêtre commun. Ce sont les liens que vous avez créés à travers les mariages et tout ça qui créent la parenté chez nous. Pas tellement l'endroit où vous êtes né. Et ça, c'est une notion de la parentalité et même de l'humanité que j'aime beaucoup chez nous, les Zébis. Qu'on se retrouve être membre de plusieurs familles en même temps. En fait. Il y a des responsabilités. Moi, naturellement, je n'étais pas d'enfant. Mais on m'appelle maman depuis que je suis enfant. Depuis que ma première sœur a fait son enfant, qui a grandi chez nous, cet enfant, d'ailleurs, elle me le rappelle toujours, elle me dit, tu sais, mais moi, je suis ta première fille. On a 4 ans de différence, mais je suis sa maman. Et on a gardé ce lien-là. C'est vraiment ma fille. Donc, dès quand j'avais 9 ans déjà, ma maman me disait, tu ne peux pas jouer parce qu'on a grandi ensemble. On était enfants au même moment. Mais quand j'essayais de faire des jeux d'enfants avec elle, ma mère me disait, non, tu ne peux pas t'amuser avec elle. Tu es sa mère. J'ai payé des loyers ici à l'enfant de la fille de ma sœur qui est venue étudier en France. Moi, j'ai pris la responsabilité de cet enfant-là. Donc, pendant 4 ans de ma vie, je me suis ruinée à payer le loyer d'une étudiante. Parce que c'est ma fille, je ne peux pas me dérober. Elle n'avait pas ce problème-là parce que maman Tita était là et maman Tita a géré. J'ai bien galéré. C'était très cher, mais je ne pouvais pas me défiler parce que c'est mon enfant. Par les mariages chez nous, quand on va épouser une femme, c'est toute la une famille qui va épouser une femme. Donc, les enfants qui vont naître si par exemple mon frère arrive à décéder, par exemple, ben sa veuve, c'est à nous de nous en occuper. C'est notre femme. Donc, on ne la laisse pas. On va lui faire ses champs, on va, et à sa mort, nous allons l'enterrer, même si son mari n'est plus là. En principe, hein, après, je ne vous dis pas que les gens se comportent toujours comme ça. Les Nzébis sont comme tous les humains. On a tous des lois qui sont magnifiques, mais après, personne ne les respecte. Mais en principe, c'est ça. C'est ma façon d'être, c'est qui je suis, c'est comme ça que j'ai grandi. Alors, les moments importants, déjà la naissance. Quand un enfant naît, un bébé naît, on va le garder plusieurs semaines à l'intérieur de la maison, il ne sort pas. Quand le cordon ombilical est tombé et que le nombril a totalement cicatrisé, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va faire une cérémonie. Mais la cérémonie ne s'étend pas à toute la communauté. La cérémonie reste au niveau de la maisonnée et peut-être de certaines personnes de la même famille qui sont dans le village. Donc, il y a quelqu'un qui va venir et on va faire ce que nous, ben, les Nzébis appellent chachambl. On va se lever tôt le matin, donc entre 4-5 heures du matin. Et on va sortir avec le bébé. La veille, on aura préparé une bassine d'eau à l'intérieur de laquelle on aurait mis des écorces, des feuilles. On aura mis ça dans une eau très propre, très claire. Ça aura trempé toute la nuit. Et on va aller faire le chachambl au bébé. C'est comme un baptême. et chacun va prendre des feuilles et va arroser le bébé. Et on va faire des vœux. C'est que des choses positives que chacun va venir souhaiter au bébé. Et vous allez l'arroser en disant Chachamble. Et tout le monde va répondre Chachamble. Et on va pas passer comme ça à tour de rôle. Et on arrose le bébé, on fait Chachamble, Chachamble. Maintenant, on ne fait plus ça parce qu'on n'a pas de transmis. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire un Chachamble à un bébé parce qu'on ne m'a pas montré comment on fait. Il y a peut-être des gens qui savent pas quoi faire ça. Et avec la vie dans les villes et tout ça, il y a des choses qui ne se font plus parce qu'on ne vit plus de la même façon. Moi, j'ai vu ma mère aussi, les cordons ombilicales des enfants. Et ça ne se jette pas n'importe comment. Quand le cordon ombilical d'un bébé est tombé, on le prend et on va le planter en général sous un arbre. Donc moi, mon cordon a été planté quelque part. Et c'est ce qui nous lie, par exemple, à certaines terres. Et une fois que le bébé est sorti, pour les garçons, à la préadolescence, je pense, ils vont faire la circoncision. Parce que nous sommes un peu, nous, on circoncit. Et la circoncision, c'est aussi un rituel. Ça commence pendant de longues semaines, on va l'emmener, on va le sortir de chez lui, on va faire des chants, des danses, on va lui faire une grande fête pour lui signifier qu'il n'est plus un petit garçon. Il y a aussi des initiations chez les filles, mais chez nous, il n'y a pas de mutilation. Chez les peuples du Gabon, il n'y a pas de mutilation chez nous. Il y a juste un moment où les filles, mais moi, je ne peux pas vous en parler parce que moi, je n'ai pas été initiée, donc je ne peux pas vous parler, mais il y a des initiations pour les jeunes filles aussi, dans certaines familles. Et les initiations chez nous ne sont pas obligatoires, c'est la famille qui décide. Moi, mon père en parlait par exemple parce que pour lui, il y avait des choses pas très correctes qui se faisaient dans les initiations parce que c'est très secret. Et moi, je sais qu'il y a des gens pendant la colonisation, par exemple, dans certains pays, qui sortaient de leur village pour aller en ville parce qu'ils fuyaient justement les initiations parce que c'était trop violent. Donc, c'est ça un peu le lien à tout ce qui est spirituel. La spiritualité, c'est ça, elle est libre. Votre esprit est lié à tous ceux qui vous ont précédé. Donc, il faut que toutes ces personnes-là soient là au moment où on vous initie. Vous ne pouvez pas aller vous initier. Après, chacun peut faire comme il a envie. Chez nous, l'étape de l'adolescence qu'il y a ici, dans nos cultures, ça n'existe pas. On passe directement de l'enfance au monde adulte. Donc, à partir de là, après, une fois qu'on atteint l'âge du mariage, ben, traditionnellement, ben, vous vous mariez, on vous organise votre mariage, et le mariage, c'est encore là, c'est des familles qui se déplacent, il y a la dot chez nous, il y a des rencontres, chez nous, c'est plusieurs étapes. Et si vous êtes en âge de vous marier, le père peut venir voir vos parents et dire, ben, j'aimerais épouser votre fille. C'est pas, c'est, il faut l'accord des parents. J'aimerais épouser votre fille pour mon enfant. Et les enfants vont se rencontrer. Et donc, il y a une phase chez les Nzébi où la jeune fille va, par exemple, venir chez ses beaux-parents pour voir la famille, pour s'habituer, pour voir si ça se passe bien. Et puis, elle repart chez elle. Ça lui permet de voir si elle veut vivre avec cette famille-là ou si elle ne veut pas de ce mariage. Et si le mariage est accepté, eh bien, il y a d'abord la demande de la main. On va demander de la main à la jeune fille. C'est toute cette étape-là. Elle accepte, elle vient, elle habite. On appelle ça Mubuombi. Mubuombi, c'est l'éventuel futur marié. Si le mariage se fait, là, toute la grande famille se déplace maintenant et on va épouser la jeune fille. On fait la dot, on fait les échanges de ce qu'on peut échanger. C'est retour là, vous expliquer. Et puis après, sa famille vient la déposer. Donc, on a commencé par la naissance, l'adolescence, on est au mariage. Et chez les Nzébi, une vie s'achève, comme toute vie, on meurt. Et à la mort de chaque Nzébi, il y a ce qu'on appelle Ikoumbou. Ikoumbou se fait après l'enterrement de la personne. Quand la personne a été enterrée, il y a une coutume qui dit que quand un enfant meurt, le père est toujours obligé de payer. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Un père paye toujours des dommages toujours la famille maternelle. Alors c'est peut-être parce que je ne sais pas pourquoi. Là, je spécule là maintenant. Nous sommes matrilinéaires. Donc peut-être que quand un homme va épouser une femme, il enlève à une famille un membre. Donc quand ce membre meurt, il faut que l'homme paye. Et pendant Ikoumbou, on va faire une espèce de bilan de la vie de cette personne. En fonction de qui tu es, il peut sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives pour célébrer la vie qui a été celle de cette personne-là. Quand une femme qui a été épousée décède, on doit faire le bilan de sa vie. Et si ça s'est bien passé, on vous dira que ça s'est bien passé. Si vous avez maltraité cet enfant, on vous dira, sa famille va se lever pour dire que vous avez maltraité notre fille. Et en ce moment-là, on peut même dire, ce mariage-là était tellement mauvais que nous interdisons à tous nos descendants de venir se marier avec les gens de votre clan parce que vous n'êtes pas des gens bien. On croit aux esprits des morts, on croit que ceux qui sont partis continuent à veiller sur nous, mais on n'a pas de culte. On continue à les honorer de par la façon de vivre, par exemple, de par les noms qu'on donne. On donne aux enfants les noms de certaines personnes. Donc la personne continue à vivre à travers les noms. Par exemple, mon père qui a été quelqu'un de très, vraiment beaucoup aimé, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent comme mon père. Donc il continue, sa mémoire continue à vivre, mais on ne voue pas un culte aux esprits. Mais il y a un moment de l'année où il y a une procession qui se fait dans les villages Nzébi où on va nourrir les esprits, justement. Donc, c'est souvent au moment des premières récoltes. Donc, ces premières récoltes-là, on va les donner en don aux esprits pour les remercier et pour espérer qu'ils nous permettent pour leur demander des faveurs, quoi. Parce que on est toujours liés, ils ont toujours un rôle dans nos vies. Donc, il vaut mieux être bienveillant avec eux pour que eux aussi en retour soient bienveillants avec nous. Chez nous, j'observe les gens, par exemple, avant de manger ou de boire quelque chose, ils vont verser une partie de leur boisson par terre. Ils la versent. Ça, c'est pour les esprits. Avant de manger, ils vont prendre un peu de leur nourriture, ils vont la jeter dans la nature pour les esprits. Il y a des gens qui font ça systématiquement. La musique occupe une place centrale. Je vous disais déjà quand on sort le bébé le matin, chachamble, c'est presque du chanter parler. Les jumeaux sont des enfants sacrés. Et quand naissent les jumeaux, c'est une cérémonie encore plus grande que le chachamble qui se fait. Il y a une procession des jumeaux. Déjà chez nous, on dit que les jumeaux, on ne leur donne pas de nom. Ils se nomment eux-mêmes. Ils vont venir en rêve chez un membre de la famille avant leur naissance et ils vont leur dire, nous, ils vont donner leur nom. Ils vont dire, nous sommes tel et tel. Donc, les jumeaux étant particuliers, nous avons un répertoire de chants chez les Nzébi. Et quand les gens pleurent aussi, quand pleure est mort, vous allez entendre les gens venir chanter, et puis ils vont se mettre à parler. Au niveau autour de la mort, il y a un répertoire particulier. Parce que quand quelqu'un meurt, pour éviter que les gens soient tristes, il y a une cérémonie qui se fait par les petits enfants. Et elles vont venir se moquer du mort. Pour détendre l'atmosphère, pour ne pas que les gens pleurent. On va rigoler, rigoler, rigoler. Et ça se fait toujours donc la nuit avant l'enterrement. Parce que chez nous, un mort passe une nuit. Vous mourrez aujourd'hui, on vous enterre demain. Il y a des chansons que nous chantons quand nous allons chanter et tout ça. Et on chante tout le temps, tout le temps. Nous avons des contes en chanson. On éduque les enfants aussi à travers les contes. Il y a des contes chez nous qui ont des chansons. La musique fait partie de notre quotidien. Cet album s'ouvre d'ailleurs par la chanson d'un conte. Et moi, je la chantais quand j'étais enfant. Mais moi, je n'ai jamais entendu le conte. Il m'est resté de ce conte, il m'est arrivé juste cette chanson. C'est pour ça que le titre de cet album, c'est Réminiscence. Je vous apporte ce qui m'est resté de ma culture. C'est ça la réminiscence, c'est ce qui nous reste de quelque chose. C'est le souvenir de quelque chose qu'on a perdu. Donc, ma musique n'est que ça, c'est des réminiscences. En fait, moi, j'aime les autres êtres humains parce que j'aime les miens. Moi, je veux traiter les autres comme j'aimerais qu'on traite les miens. C'est pour ça que je chante. Ce sont ces valeurs-là que je transmets. Et c'est pour ça que ma musique c'est pas tellement du divertissement, c'est vraiment plus de la culture. Parce que même dans les textes, quand vous allez dans les textes, je dis ce genre de choses. Je vous ai dit que, il y a un rituel qui s'appelle Bouiti chez nous, les gens s'initient. Et dans le Bouiti du Gabon, nous avons un instrument. C'est la sitar, la gabonaise. Et c'est une sitar qu'on ne voit qu'au Gabon. En fait, cet instrument-là, on ne le rencontre pas n'importe où. C'est un instrument, il n'est joué que par des gens qui ont été initiés au Bouiti ou qui sont proches de ça. Il y a un lien entre le monde des vivants et le monde des morts dans la sitar. Et puisque ce conte, je ne l'ai plus, moi j'ai appelé ce joueur de sitar qui a joué et j'ai voulu de cet instrument pour que la sitar symbolise le conte que moi j'ai perdu. Je parle de mon pays, du Gabon, parce que là, on a beaucoup parlé de la société traditionnelle gabonaise, mais il y a la société, j'allais dire, institutionnelle, la société étatique gabonaise, qui est une autre société avec d'autres types de problèmes, avec d'autres choses, j'allais dire, d'autres maux de tête que cette société étatique me donne, et j'en parle aussi. Il y a aussi des chansons qui traitent de ça dans cet album-là encore et dans les albums précédents. Donc, voilà, c'est un album humain. Mais l'humanité chantait en langue zébi, et si je vous la traduis, ben vous allez retrouver exactement l'humanité telle qu'elle est en Europe, en Asie, où vous voulez. C'est un album humain.